Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage est très souvent synonyme de rencontres et d'échanges. Marion fait partie des expatriés qui, après une vie plutôt classique en France, a fait le choix de venir s'installer dans un petit paradis qu'on appelle les îles Togian. Ici, Marion travaille sur la mise en place d'un projet de préservation de ces îles splendides, malheureusement envahies par les déchets plastiques. Dans cette première partie de l'émission, Marion nous parle d'elle et de son histoire. Peut-être simplement, je vais te demander, Marion, avant de me parler de toi, de me parler de là où on est, décris-moi un peu l'ambiance, l'atmosphère, essaie de recréer un univers visuel pour celui qui va nous écouter.
Alors, on est donc sur la terrasse d'un bungalow en bois, juste à quelques mètres de la mer, une petite plage de galets dans la ville d'Ampana, au fin fond de Sulawesi, qui est une grande île indonésienne. Et on a donc autour de nous un champ de cocotiers. On a des grenouilles qu'on entend dans le fond, je ne sais pas si vous les entendez, et plein d'arbres. C'est assez vert en fait autour de nous, et on est dans un petit bungalow en bois, donc sur la terrasse d'un bungalow. On est finalement dans la nature, au cœur de la ville.
Et en face de nous, on ne le voit pas, donc la mer, mais un peu plus loin, les îles Togian sur lesquelles tu nous emmèneras au cours de cette rencontre. Donc Marion, toi, tu habites ici, tu es expatriée dans cette partie de l'Indonésie. Hein, on n'a pas cité le mot, donc on est sur l'île de Sulawesi. Et on va prendre le temps de te rencontrer. Donc Marion, qui est Marion? Avant de me raconter comment tu es arrivée ici, j'aimerais savoir qui tu es.
Je suis donc haute-savoyarde d'origine. J'ai vécu pendant une grande dizaine d'années à Paris, où je travaillais dans le secteur de l'Internet. Voilà, donc j'étais une grande communicante, chef de projet dans l'Internet. Ça a été mon métier principal. Mais je me suis cherchée pendant pas mal d'années, je suis devenue hôtesse de l'air aussi. J'ai pensé que comme j'aimais le voyage, ça allait être un métier super. Finalement, je me suis un petit peu trompée. Et puis j'ai enchaîné ensuite par une formation en réflexologie plantaire. Pas parce que j'aime les pieds, mais parce que je me suis dit que la médecine traditionnelle, naturelle, on va dire, était une réponse beaucoup plus adaptée à nos problèmes de santé aujourd'hui. Voilà, donc je me suis tournée là-dedans. Donc ça, c'est mon parcours avant d'être ici.
Tu as dit, déjà, tu as lâché un mot, hôtesse de l'air, parce que tu aimes le voyage. Donc, qu'est-ce que c'est que pour toi le voyage et à quel moment tu as rencontré, quand est-ce que tu as rencontré le voyage?
Alors, le voyage, c'est la découverte de l'ailleurs, c'est la rencontre, surtout la rencontre avec les gens, avec d'autres cultures, d'autres paysages, d'autres organisations de société, d'autres repères. Voilà, et c'est un partage vraiment pour moi. Et le voyage, je l'ai connu tard finalement, il y a 10 ans, pile, janvier 2006, mon premier voyage en Asie, au Laos. Voyage initiatique, ça a changé ma vie. Formidable, une révélation.
Qu'est-ce que tu allais y faire au Laos? Tu avais un projet ou c'était vraiment partir avec ton sac à dos et puis vivre la rencontre dont tu me parlais avant?
Vivre la rencontre, partir en sac à dos. Comme disent les Laotiens, je suis allée écouter le riz pousser.
On est où dans ton parcours là? Tu es encore en mode télécommunication internet?
Oui, en mode communication internet, petite période de doute. Bilan de compétences, reconversion, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et donc voyage. Voyage pour faire le point, pour bilan de compétences, c'est bien, mais c'était un peu trop terre à terre. Donc voyage, rupture totale. Je vais aller me trouver ailleurs.
Combien de temps là?
2 mois. 2 mois, premier voyage seul, premier voyage loin et seul, c'était le but. J'étais en couple à l'époque, mais il fallait que je le fasse seul.
Tu rentres en France et...
Déprime. Il faut que je reparte. J'ai goûté à quelque chose d'extraordinaire, donc il faut que je me donne les moyens de repartir. Et déjà à ce moment-là, il y a 10 ans, naît l'idée de vivre quelque chose en Asie, enfin en Asie du Sud-Est. Voilà. Donc les voyages suivants, ça a été découvrir d'autres endroits à tout prix. Donc après le Laos, il y a eu un petit peu la Malaisie, mais surtout l'Indonésie. 2007, l'Indonésie, Sumatra. Et là, coup de cœur absolument absolument intense pour l'Indonésie. J'avais déjà eu un gros coup de cœur au Laos, mais l'Indonésie, je me suis dit, c'est le Laos puissance 10. La gentillesse, l'accueil qu'on vous fait dans les différents villages, enfin dans n'importe quelle région, le sourire, parce que les Laotiens, ils sont assez forts pour le sourire, mais les Indonésiens, c'est au-dessus encore. Et puis des paysages absolument, une nature absolument magnifique, des paysages extrêmement variés, des volcans, la mer, des fonds sous-marins époustouflants, la forêt, la jungle, voilà. C'était la verdure, le bleu, des couleurs, plein de couleurs. Donc l'Indonésie, ça a vraiment été tout de suite, dès mon arrivée à Sumatra, un coup de cœur.
Et quand tu voyageais en Indonésie à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà l'idée de t'y installer ou c'était vraiment en mode prospection, dans l'idée de changer de vie ou c'était simplement voyage en pensant rentrer en France ?
Il y avait déjà l'idée. C'était un rêve, on va dire. Donc on n'était pas encore au stade de la prospection, mais c'était quelque part, je pense que je cherchais déjà à ce moment-là un endroit où je pourrais poser mon sac et vivre quelque chose.
Pourquoi ne pas rester dans la vie que tu t'es créée à Paris, dans la communication, dans l'internet, qui est un secteur en pleine expansion ?
Parce que c'est pas ça que je cherche. Je cherche, je pense, plus l'enrichissement personnel que l'enrichissement matériel. Voilà. Donc oui, bien sûr, il y avait du boulot en France à ce moment-là. Mais ça me correspondait plus. J'étais dans quelque chose de trop superficiel. J'avais besoin d'un retour à quelque chose de plus humain, de plus direct, des rapports avec les gens. Pouvoir dire bonjour à son voisin sans que le voisin vous regarde de travers, mais qui c'est celle-là. Des choses comme ça. Le rapport humain, c'est surtout ça que je cherchais et c'est ça que j'avais plus en France. Trop d'anonymat, trop d'individualisme, trop centré sur des problèmes. Des petits problèmes qui n'en sont pas. Et voilà, je trouvais la vie assez terne et ça manquait de sens. Voilà.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
J'avais besoin de trouver du sens.
Et ce sens, c'est grâce au voyage que tu as pu avoir ce recul pour te rendre compte que justement, peut-être que les gens sont un peu blasés, pas souriants, se créent des problèmes pour des choses qui n'en sont pas.
Bien sûr, c'est clairement grâce au voyage que j'ai pu avoir la distance nécessaire et pouvoir regarder ma petite vie au travers d'un autre prisme, de l'extérieur. Voilà, bien sûr.
Une fois qu'on a goûté au voyage, qu'on a compris qu'on voulait changer sa réalité, peut-être changer sa vie, comment est-ce qu'on passe à l'acte ? Parce que c'est encore autre chose de passer à l'acte, de se dire « bon allez, je quitte tout pour vraiment cette fois m'immerger dans ce que je choisis de vivre ».
C'est un acte assez fou finalement. c'est aussi les événements de la vie qui à un moment font passer à l'acte et des rencontres, voilà. Donc la rencontre que j'ai faite ici, c'est la rencontre avec des gens d'un petit archipel de Sulawesi, avec qui j'ai monté une association.
Donc là, on est dans ton premier voyage, ton deuxième voyage en Indonésie. On en est où dans le parcours Indonésie ?
On est dans le quatrième.
Donc après Laos, c'était l'Indonésie, tu y es revenu, donc retour en France. Et qu'est-ce que tu faisais entre deux voyages ?
Entre deux voyages, je travaillais. Voilà, donc au départ, non, c'était une idée, enfin le rêve de m'installer un jour en Asie, mais en attendant, il fallait quand même bien vivre. Et donc voilà, je partais en voyage chaque année, un mois, deux mois, je me regonflais à bloc et puis je revenais dans l'amorosité ambiante et en me disant, il faut que je reparte et à terme créer quelque chose. Voilà, donc les allers-retours, oui, c'était juste la fréquence des voyages qui faisait qu'à un moment, il fallait que je rentre et... Parce qu'il faut quand même un petit peu d'argent pour voyager.
Et donc sur le quatrième voyage ici en Indonésie, tu fais donc cette rencontre et tu trouves un projet qui pour toi a du sens.
Tout à fait. Alors peut-être pas le quatrième, ça devait être le cinquième. Le quatrième, c'est la première fois que je suis venue dans cet archipel des îles Togian. Et là, si j'avais eu un coup de cœur en 2007 pour l'Indonésie, là j'ai eu un coup de cœur pour l'endroit. C'est-à-dire que un endroit tellement reculé, isolé, que j'ai eu l'impression de vivre à une époque où moi-même j'étais pas née, mais à une époque où les gens savaient encore se parler, où vraiment un contact humain tellement formidable et tellement fort que j'ai décidé de, comment dire, rompre une promesse que je m'étais faite qui était de ne jamais aller deux fois au même endroit. Je l'avais fait une fois et j'avais été extrêmement déçue. Et donc là, sur les îles Togian, je me suis dit non, je vais être déçue si je reviens l'année prochaine ou la prochaine fois, je vais être déçue. Et en partant, j'ai rompu cette promesse. En partant des îles, je me suis dit, je ne peux pas ne pas revenir. C'est trop fort ce qui s'est passé humainement avec les gens de là-bas, c'est trop fort, il faut que j'y revienne. Donc, 6 mois plus tard, j'étais de retour. Et c'est là qu'a démarré le projet de l'association.
Avant de me parler du projet de l'association, j'aimerais quand même que tu me parles de ces îles Togian qui pour toi maintenant te sont devenues familières, mais pour ceux qui nous écoutent peut-être pas, qu'est-ce que c'est? Parle-moi de ces îles, où est-ce qu'on est là? Comment est-ce qu'on y accède? Et qu'est-ce qu'on y retrouve sur ces îles? Pourquoi est-ce qu'elles marquent l'esprit des voyageurs?
Alors les îles Togian, donc, c'est un archipel qui se situe au cœur du triangle de corail. Donc c'est d'une richesse naturelle absolument incroyable. C'est un espace très sauvage qui est principalement occupé par la jungle. Donc on est au cœur de la nature, sous l'eau comme sur terre, il y a énormément de choses à voir. Et on est dans un mode de vie qui est donc très authentique, à l'ancienne. Je dis toujours qu'ici on vit comme on vivait en France il y a 100 ans. Enfin, c'est ce que je suppose.
Parce que là, quand on est sur les îles, donc si j'y suis pas allé, mais si j'ai bien compris, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'accès à Internet, l'électricité y est, mais pas tout le temps. Enfin, on est vraiment dans un endroit très isolé, très reculé, où c'est parfait pour venir faire un break.
Tout à fait. C'est l'endroit idéal pour faire le break, la déconnexion de tout, et ça marche. Ça marche très très bien. Donc c'est l'expérience de Robinson, un petit peu plus moderne, parce qu'évidemment, il y a quand même des infrastructures et tout ça, mais en effet, l'électricité que quelques heures le soir, l'eau courante, pas toujours, dans les structures touristiques, bien évidemment, mais dans les villages, l'eau courante, très peu. Et puis, une difficulté d'accès. Donc, entre le continent et les îles, c'est, dans le meilleur des cas, 3 heures, dans le pire, 12. Voilà. Donc on est loin de tout et pas de téléphone, un petit peu de réseau téléphonique à certains endroits, surtout évidemment pas d'internet, donc déconnexion totale.
Et qui sont les habitants de ces îles?
Des pêcheurs essentiellement et des agriculteurs.
Des Indonésiens, ou est-ce qu'on connaît un peu historiquement d'où viennent les gens? Comment est-ce qu'ils sont arrivés sur cette petite archipel?
Alors c'est un mélange de groupes ethniques en fait, les îles Togian, c'est pour ça qu'ils parlent tous le Bahasa Indonesia, qui est la langue officielle indonésienne. Donc il y a des gens qui sont des régions alentours, comme Gorontalo au nord, des gens qui viennent de Makassar, le sud de l'Indonésie, des gens qui viennent de Java. Et il y a des gens aussi qui sont originaires de ces îles, et il y a évidemment les fameux Bajo qui sont les gitans de la mer, dont on a vu en France pas mal d'émissions qui traitaient de ce sujet. Voilà, donc c'est une sorte de mélange ethnique assez joyeux et assez enrichissant finalement.
Les Bajo, tu dis, on a entendu pas mal parler en France, mais peut-être pas finalement. Qu'est-ce que c'est qu'un Bajo?
Un Bajo, c'est donc un nomade qui vit sur la mer. Donc ce sont des gens qui à l'origine vivaient uniquement sur leur bateau et qui vivaient du produit de leur pêche. Et qui venaient sur le continent de temps en temps pour vendre aussi évidemment leurs poissons et puis acheter un petit peu de produits qu'on ne trouve que sur la terre, comme le riz par exemple. Donc c'est des gens qui ont des croyances animistes très fortes, tout est tourné autour de la mer, ils ont différents dieux, ils ont un système d'offrandes, ils ont enfin une culture qui est encore très forte. Malheureusement, ce sont des gens qui ont été forcés à la sédentarisation par le gouvernement indonésien. Donc aujourd'hui, on les retrouve plutôt dans des villages qui sont quand même organisés au-dessus de l'eau la plupart du temps, des maisons sur pilotis, ce genre de choses, mais ils sont quand même relativement sédentaires. Même si il reste quelques communautés qui continuent à vivre uniquement sur l'eau, mais c'est de plus en plus rare.
Ok, donc tu retournes aux îles Togan par coup de cœur, donc tu romps ton vœu de ne jamais retourner deux fois au même endroit. Donc ça y est, tu y retournes, et là donc tu rencontres ou tu découvres un projet, ou comment ça se passe, quelle est la suite de l'histoire?
Je rencontre personne de nouveau, je rencontre les mêmes personnes que j'ai rencontrées 6 mois plus tôt, sauf que je suis toute seule dans le petit ensemble de bungalows dans lequel je loge. Je suis toute seule avec mon compagnon de l'époque. Pendant 15 jours, il n'y a pas d'autres clients. Ce qui fait qu'on tisse des liens très privilégiés avec les locaux, à la fois les membres du personnel et puis les gens du village, parce qu'on va régulièrement se promener au village. Et comme on est les seuls clients, on se rassemble, on joue aux cartes, on discute, on ne se comprend pas toujours, parce que tout le monde ne parle pas anglais, et à l'époque, je ne parlais pas beaucoup indonésien. Voilà, ça crée des liens très forts. Et puis un jour, quelques jours avant le départ, le manager de ce petit hôtel où je logeais me fait part de ses inquiétudes par rapport à l'environnement des Togiennes. Et là, ça fait tilt. Les déchets, trop de déchets et beaucoup de chômage. Comment est-ce qu'on peut faire matcher les deux? Donc essayer de lutter contre le chômage avec des actions écologiques.
Donc là, l'initiative vient d'un Indonésien. C'est lui qui se rend compte de la problématique des déchets sur les îles, notamment le déchet plastique, hein, c'est ça, qui est jeté d'une manière sauvage partout.
C'est ça. L'initiative vient de lui. C'est évidemment un constat que moi, j'avais fait lors de tous mes voyages en Indonésie. Mais l'initiative vient de lui et c'est ça qui est important et c'est ça qui fait que ça marche lentement mais sûrement. Mais ça marche parce que l'idée vient de lui, elle est portée par lui. Et moi, je ne suis pas l'occidental qui vient et qui est donneur de leçons, finalement. Donc, ça prend, parce qu'il se trouve qu'en plus, ce monsieur, qui s'appelle Saiful, est quelqu'un de très respecté dans son village, et il a une sorte de charisme, voilà. Donc, les gens l'écoutent et le suivent, en général.
Et donc là, l'idée, c'est donc de trouver un moyen de limiter les déchets, de les recycler, de les récupérer, de les réutiliser. Tu parlais aussi du chômage, donc qu'est-ce qui allait se mettre en place? Est-ce qu'il avait déjà une idée claire par rapport au projet qu'il voulait mener?
Non, alors justement, c'est là qu'il a fait appel à nous, mon compagnon de l'époque et moi. Il avait l'idée, mais comment faire? Comment mettre en place des actions? Donc on s'est installé autour d'une table et on a discuté pendant des heures. Donc on a eu l'idée de créer une association. Et au départ, on était plutôt dans le pansement, c'est-à-dire... On va essayer de réparer, donc déjà faire des opérations de nettoyage. Nettoyer les plages, nettoyer les villages, en essayant de faire des opérations un petit peu coup de poing, c'est-à-dire on débarque dans votre village, et tout, pour que les gens se disent « mais enfin, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?» Que ça crée une sorte de curiosité, quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et voilà. Donc au début, c'était vraiment ça. Parallèlement, il y avait une action par rapport à une étoile de mer tueuse de corail, qui s'appelle l'étoile de mer couronne d'épines. C'est une action qu'aujourd'hui on a mise un peu de côté parce que l'aspect déchet est trop prenant. Voilà. Donc il y avait ces choses-là. Donc au départ, c'était travailler avec des bénévoles au nettoyage des plages et des villages, et de temps en temps les rémunérer. Donc c'est-à-dire ne pas les salarier, mais leur donner une sorte de compensation de temps en temps. Au départ, c'était très basique. Voilà. Et puis notre action s'est étoffée au fur et à mesure. Quand je suis rentrée en France, j'ai évidemment fait énormément de recherches parce que l'environnement n'est pas ma spécialité. J'ai quelques notions de base, mais voilà, donc j'ai fait énormément de recherches. Et puis au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens qui bossent dans ce secteur. Et puis au fur et à mesure, on a essayé de monter des actions donc, et de faire en sorte qu'on ne soit pas uniquement au niveau curatif, mais préventif. Voilà.
Qu'est-ce qui fait que Saiful a eu cette conscience des déchets, de l'impact des déchets jetés comme ça dans la mer et peut-être pas les autres Indonésiens ?
20 ans d'expérience dans le tourisme et puis le développement progressif des Togianes, même si c'est une région isolée. Il y a 20 ans, il y avait peut-être 3 touristes par an. Aujourd'hui, il y en a quand même un petit peu plus. Donc, je pense que c'est la rencontre avec les touristes, parce que c'est évidemment un discours que la plupart des voyageurs ont lorsqu'ils viennent en Indonésie et notamment aux Togianes. Pourquoi tant de déchets ? Pourquoi est-ce que les gens n'utilisent pas de poubelles ? Ne serait-ce que ça, ne serait-ce que cette base-là. Donc je pense que c'est son expérience avec les Occidentaux, sa rencontre avec les Occidentaux. Sur les îles, c'est le chef du village. Voilà, c'est la seule entité, on va dire, qui peut prendre la parole. Voilà, il n'y a pas du tout de petites organisations au niveau des habitants. Il n'y a pas.
Et le chef du village, c'est quelque chose d'informel ou c'est quelque chose qui est contrôlé par le gouvernement ?
C'est contrôlé par le gouvernement, c'est une personne qui est élue par les habitants du village, c'est un fonctionnaire, voilà, c'est quelqu'un comme le maire dans nos villes françaises, à une beaucoup plus petite échelle. Voilà. Et donc c'est quelqu'un qui peut avoir une influence lorsqu'il y a effectivement des initiatives de villageois ou d'associations, enfin peu importe, le chef du village peut être porteur de ces initiatives ou de ces projets et demander des subventions, des aides au niveau hiérarchique supérieur, c'est-à-dire le chef du district. Voilà. Donc il suffit d'avoir un chef du village qui est à l'écoute et qui a envie de soutenir des projets et on peut arriver à des choses tout à fait extraordinaires assez rapidement.
Après, tu disais aussi que le problème, c'est que les déchets, c'est pas quelque chose d'attrayant, c'est pas quelque chose de sexy, c'est pas quelque chose dont la société indonésienne, on a envie de s'occuper de ça. C'est plutôt quelque chose de perçu d'une manière négative.
Ah, bien sûr, le déchet est sale. Pour autant, ça ne dérange pas trop les gens d'ici de voir des déchets partout. Mais le déchet est sale. Et je me souviens d'avoir discuté il y a quelques années avec une Italienne qui a monté une société de recyclage à Bali, en Indonésie, et qui me disait qu'en tout cas pour la société balinaise, un déchet est quelque chose dont il faut se débarrasser le plus vite possible. Par exemple, un emballage de barres de céréales, mettons. La barre de céréales, une fois consommée, il faut jeter le déchet tout de suite parce que c'est sale. Et surtout, à partir du moment où le déchet est jeté, il n'appartient plus à la personne qui vient de le jeter. Donc il n'y a absolument plus pas de responsabilité. C'est-à-dire, il n'y a pas de prise de responsabilité. C'est moi qui l'ai jeté, mais il est par terre, donc il n'est pas à moi.
Mais il est visible quand même, et on est tous attachés à notre maison, à notre jardin, à notre rue. On veut que ce soit propre, non ? Pas ici ?
Pas ici, et puis propre, ça ne veut pas dire la même chose partout. Je me souviens à Lombok, il y a 2 ou 3 ans, j'avais rencontré un couple de Français installés là-bas qui me disaient qu'ils avaient justement posé cette question à leurs voisins villageois en disant « Mais vous ne trouvez pas que vos jardins sont sales, c'est rempli de déchets plastiques ?» Et la réponse était « Mais pas du tout, au contraire, ça fait des couleurs. » Voilà, ça pourrait résumer un petit peu.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
On a commencé par parler de toi, de ton parcours, de ton arrivée ici aux îles Togianes. On va terminer aussi en parlant de toi. Parce que là, Everto, c'est du bénévolat, mais quels sont tes projets? Je crois qu'il y a un projet de cottage aussi, non? Parle-moi un peu de Marion de nouveau, pour reprendre le fil conducteur du début de cette émission.
Eh ben, oui, mon projet, il est un petit peu dans la lignée de ce qu'on fait pour Everto, c'est-à-dire protection de l'environnement. Donc, parce que j'en ai appris des choses quand même en 4 ans. Moi qui n'étais pas une spécialiste de l'environnement, je suis devenue quand même presque l'encyclopédie universaliste. Donc, non, franchement. Mais du coup, évidemment, ça m'a ouvert à plein de problématiques, des choses dont je n'avais pas forcément conscience. Et puis, comment on fait pour vivre sur une petite île en respectant l'environnement? Parce que c'est pas facile. Quand on y est et qu'on y vit soi-même, c'est facile de venir en vacances et dire « Oui, alors il ne faut pas jeter ses déchets, puis il ne faut pas brûler, puis il ne faut pas ci, puis il ne faut pas ça. » Essayer avec les infrastructures locales, c'est très compliqué. Bon, en tout cas, moi, mon projet, donc, il est dans la lignée de tout ça, c'est-à-dire essayer de monter mon petit cottage, donc un resort, comme on appelle ça ici. C'est un petit établissement hôtelier, en général, qui consiste en une poignée de bungalows sur une plage, et donc de monter ça dans une démarche verte, voilà. Donc en ayant le minimum d'impact sur la nature, autant que faire se peut, hein. Et puis, non seulement une démarche écolo, mais une démarche aussi, je dirais, sociale, ou c'est-à-dire en incluant les communautés locales à ce qu'on fait. En ce moment, je suis en plein travaux, je monte mon resort en utilisant comme matériau principal de construction le bambou, qui est un des matériaux les plus écologiques qui existe, puisque c'est un matériau qui se regarde pousser, mais littéralement, hein, ça pousse très très vite, donc en 4-5 ans, on peut récolter à nouveau un bambou qui fait déjà plus de 15 mètres de haut. Ça n'existe pas chez les arbres. Donc voilà, donc nous on fait dans le bambou, un petit peu de bois aussi, on fait dans le bois flotté, on fait dans les déchets plastiques pour la déco, pour l'isolation des toits, les déchets en verre pour faire des puits de lumière, des fenêtres en bouteille, des choses comme ça, voilà. Donc on essaye de faire avec les matériaux du bord et puis de pas trop abîmer la belle nature qui nous entoure. Et puis on a plein de projets. Ah oui, sur l'aspect bambou et l'aspect donc communauté locale, l'architecture en bambou ici n'existe pas ou n'existe plus. Donc notre projet, enfin qui est en cours actuellement, c'est de réintroduire les techniques d'utilisation du bambou pour la construction et donc former les communautés locales à cette technique qui est utilisée dans d'autres régions d'Asie et d'Indonésie d'ailleurs. Donc on a fait appel à un architecte balinais et voilà, donc on a une équipe d'Etogyan qui va sous quelques jours commencer à être formée à la construction bambou et qui pourra par la suite répliquer, c'est-à-dire commencer à construire des maisons en bambou, construire le cottage de quelqu'un d'autre et faire des meubles en bambou, et voilà, donc on développera aussi l'économie par ce biais-là, et l'idée c'est que ça profite à tout le monde finalement, dans le respect de la nature, voilà.
Pour terminer, donc t'as fait le choix, tu viens d'une vie parisienne, travailler dans l'informatique et dans la communication. Le voyage t'ouvre sur une autre dimension, une envie de réaliser tes rêves. Tu te donnes les moyens de tout quitter pour construire ta propre réalité. Et maintenant?
Et maintenant? Et ben maintenant, j'espère que ça va marcher, parce que Everto, ça marche, doucement mais sûrement, ça marche. Donc mon resort, et ben ouais, j'espère que ça va marcher. J'espère que on va réussir à faire face à tous les obstacles. Et Dieu sait s'il y en a ici, très difficile dans un endroit sans infrastructure, loin de tout pour l'approvisionnement, des outils, de toutes ces choses-là. C'est très compliqué. Donc j'espère trouver rapidement mon équilibre ici et continuer à réussir à m'adapter. Parce qu'en fait, quand on voyage, on rêve de plein de choses, on se dit c'est génial ici, mais le paradis ça existe nulle part, sauf sur les cartes postales. Voilà, donc réussir à trouver ma place à 100% ici.
Ben, bravo Marion en tout cas, et puis bonne chance, et tu fais rêver quand tu parles de tes projets, moi je trouve qu'il y a du sens en tout cas, tu parlais de sens au début de cette émission, et là le sens il est là.
Merci beaucoup Alex.
Regarde ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.